Bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde. Des temps de passage forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Bienvenue dans Enfanter et devenir, le podcast dédié à l'accompagnement respectueux des enfants, mais aussi à l'empouvoirment via la parentalité. Après 2 saisons axées sur des récits de naissance uniquement, il va y avoir du nouveau. Ça va être un joyeux bazar ici. Alors préparez-vous à être inspiré, informé et motivé dans votre parcours de parent, mais pas que. Ici, nous explorons ensemble les différentes facettes de ce merveilleux voyage qu'est la parentalité, en mettant l'accent sur l'accompagnement respectueux des parents et des enfants, mais aussi sur l'écologie, parce que bon, on n'en parle jamais trop. Je suis ravie de vous retrouver seule ou avec des invités pour partager des réflexions, des expériences inspirantes, des astuces qui vous aideront à vivre pleinement votre rôle dans ce nouveau paradigme pour un monde qui a grandement besoin qu'on évolue dans nos pratiques vers plus de douceur, de lenteur et de respect. Je m'adresse ici aux parents et aux pros de la petite enfance, mais de manière plus globale à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'enfance, aux relations harmonieuses et à l'épanouissement individuel et collectif. Ouh oui, c'est un vaste et ambitieux programme. Avant tout, je me présente, je suis Laetitia Boivin, créatrice de Maman d'Alune, formatrice passionnée en périnatalité et surtout, maman de 4 merveilleux enfants, de 15, 12, 5 et 2 ans. Parmi eux, 3 sont nés à la maison, librement. Ça a clairement impacté ma vision du monde et influé sur la maman et la pro que je suis aujourd'hui. Il y a 15 ans, je faisais partie de ces rares mamans écolos bizarres avec leur lubie de maternage. Mes enfants ont tous été allaités et portés des années. D'ailleurs, c'est encore en cours pour ma plus jeune. Avec chacun d'entre eux, j'ai vécu l'expérience de l'hygiène naturelle infantile, du tout lavable. J'ai signé pour enrichir notre communication. Nous avons voyagé à travers plusieurs continents. Et depuis toujours, ils grandissent sans école. Des choix que je chéris chaque jour. En bref, j'ai la chance de voir ma vie pro et ma vie perso se nourrir mutuellement. Ici, pas de jugement et pas de culpabilisation. On chemine ensemble. Vous êtes invité à prendre ce qui fait sens pour vous, ce qui vous fait du bien, et à laisser le reste. Mon objectif n'est pas de convaincre, mais vraiment de vous soutenir. Alors préparez-vous à vivre une aventure joyeuse, intense et pleine de découvertes dans le monde de l'accompagnement respectueux et de la parentalité. Merci beaucoup, Natacha, d'être ici.
Avec plaisir.
Moi, je t'ai découvert à travers les réseaux sociaux, donc tu es pas mal active. En tant que psychologue, tu es aussi autrice, notamment avec le bouquin « Pourquoi les bébés sont dans les lits à barreaux », c'est ça le titre? Peut-être pas exactement.
Ouais. Pourquoi les enfants dorment-ils dans des lits à barreaux?
Ouais, tout à c'est fait. Ça. Qui est paru aux éditions Le Être Myriadiste. Je tiens à souligner qu'ils ont besoin de soutien actuellement et qu'ils ont plein de pépites qui arrivent en précommande notamment. Donc pour ceux qui écoutent, ça peut être l'occasion. Et moi, je trouve que ton approche, elle est super top parce que ça fait du bien d'avoir une psy qui prône un petit peu la parentalité dite proximale et ça fait plaisir. Donc tu es assez militante sur les réseaux et quand j'ai vu que tu avais sorti cette petite phrase « Pourquoi les mamans ne sont pas fun ?», ça a vraiment fait écho parce que moi, j'étais maman solo pendant 5 ans et j'ai clairement l'étiquette de la maman pas fun pour plein de raisons. Du coup, est-ce que tu veux bien un petit peu rebondir là-dessus?
Alors, en fait, ça m'est venu en observant beaucoup de remarques et de plaintes de mères, que ce soit dans ma patientèle ou autour de moi, qui étaient assez désespérées de se rendre compte que c'était elles qui faisaient le gendarme à la maison, qui étaient celles qui étaient garantes du cadre, qui étaient celles qui respectaient les horaires, qui étaient celles qui mettaient fin au jeu chouette, parce que justement c'était l'heure d'aller manger, c'était l'heure d'aller prendre son bain, c'était l'heure d'aller se coucher, etc. Et que c'était un peu elle qui gérait toujours ça, parce qu'à la maison, bah, il n'y avait pas vraiment de relais pour ça, quoi. Que, en fait, il y a des... Alors, clairement, dans les cas où, que j'ai en tête, c'est principalement des papas. Mais ça doit exister aussi dans des couples homosexuels, hein, sans aucun doute, où il y en a un qui va être beaucoup plus présent dans les jeux actifs, dans les jeux ou dans le fait de justement être dans le côté fun, dans le côté décharge émotionnelle de manière rigolote, etc. Et bah, mais qui ne fait pas très attention à « Ah bah oui, là, c'est l'heure de manger » ou « Ah bah oui, là, il y a le repas à préparer et donc je ne suis plus entièrement disponible » ou « Et bah, on sait qu'encore aujourd'hui, ce sont les mères hein, qui assument la charge mentale et la charge mentale, elle passe par là, par cette charge émotionnelle-là de dire « Bah non, en fait, oui, là, vous êtes tous, c'est super chouette, mais en fait, si on n'arrête pas maintenant ces jeux, ces activités, etc., ben, on ne pourra pas coucher les enfants assez tôt, on ne pourra pas aller faire ceci ou cela, et malheureusement, c'est des choses qui doivent se faire.
Il y a vraiment une histoire d'équilibre, là, de ce que j'entends. En effet, c'est extrêmement lié à la charge mentale, et aussi, à, j'ai envie de dire quelque part, à cet équilibre qu'on a envie de trouver, tu vois, avec le côté, bon, qu'est-ce qui est sain ou pas pour un enfant ? Est-ce qu'on est OK parfois pour que l'enfant mange des pâtes ? Oui, bien sûr, sauf qu'au bout d'un moment, c'est pas possible que ça soit tout le temps. Et la maman qui a envie que son enfant il puisse manger sainement, ben, c'est elle qui va faire les haricots verts.
Et ben, voilà, alors, par exemple. Tout à fait, ouais. Ouais. Et dans la perception qu'il y a aussi, on sait que dans tous les cas, il y a ce qu'on appelle un double standard dans la parentalité. C'est-à-dire que quand une maman va faire quelque chose, elle va être perçue comme... globalement, c'est plutôt normal, ou alors c'est plutôt laxiste. Par exemple, on a souvent vu, hein, je ne sais pas, des images sur les réseaux où on voit un papa ramener du fast-food. Ah, super papa, génial. Une mère qui ramène du fast-food, c'est ah là là, ouais, c'est une glandeuse, elle ne fait pas manger à ses enfants correctement, etc. Et en gros, ça, c'est typiquement le double standard qui font que les mères ne sont jamais perçues comme des mères fun, même quand elles essaient de faire des efforts. En fait, c'est toujours interprété comme étant une forme de laxisme ou de désengagement parental. Donc voilà, c'est typiquement hein, un père qui fait la fête et qui part sortir avec ses copains, bah, c'est chouette, c'est un père qui ne s'oublie pas. Une mère qui fait la même chose, bah, ça dépend quel type de fête, quel type de soirée, à quelle heure elle rentre vraiment, qu'est-ce qu'elle fait en soirée. Il y a quand même, on reste quand même dans une société patriarcale où tout ce que font les femmes, hein, donc, voilà, est quand même regardé à la loupe et jugé assez amèrement.
D'autant plus avec un petit enfant, quoi. Et moi, très sincèrement, j'ai ressenti ça aussi envers des copines qui s'autorisaient beaucoup plus que moi je pouvais m'autoriser en me disant bah, quand même, elles ont de la chance, tu vois, quelque part avec ce côté-là. Et évidemment, si ça avait été l'inverse, je ne me serais pas dit ouais, le papa, il a de la chance.
Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà.
C'est assez ancré. Quoi.
Et... Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un truc où on a beau se dire non, non, mais moi, même moi, je suis déconstruite, je regarde les choses autrement. En fait, on a cette culture-là, on a été élevé dans cette culture-là, et donc on a notre regard qui est teinté, et où ça demande beaucoup de travail, de déconstruction, et beaucoup de travail de ses propres jugements, de questionner ses propres jugements en se disant, mais en fait, est-ce que ce qu'on pense là, c'est vraiment la vérité, ou est-ce que c'est une interprétation ? Et dans le fait que les mères soient moins, souvent moins rigolotes hein, que l'autre parent, quand il y a un deuxième parent, ou même juste du coup, quand il n'y a pas de deuxième parent, la mère est tout solo et pas forcément perçue comme très chouette, bah, c'est parce que justement, elle a tout à gérer seule, et ça tout le monde va le comprendre, mais il y a quand même ce truc de, bon bah, elle pourrait faire un effort pour être plus rigolote, pour plus lâcher prise, pour être plus détendue. Il y a un peu cette considération que ça repose sur l'individu et que en fait la santé mentale de la mère, hein, qui impacte la capacité aussi à être fun, ne repose que sur elle et sa propre volonté.
Oui. C'est encore cette fameuse histoire de quand on veut, on peut, quoi. Ben, en fait, pas toujours.
Bah, pas toujours et même carrément pas souvent, parce que quand on voit dans les conditions dans lesquelles on peut élever nos enfants, y a plein de conditions qui sont très entravantes. Et pour les femmes, on sait à quel point avoir un enfant, alors ça peut être un choix qu'on vit très bien et avec lequel on est vraiment très heureuse, hein, moi j'en fais partie, ça n'enlève pas le fait que ça entrave énormément plein de choses. Dans la vie quotidienne, en fait, notamment au niveau des carrières, au niveau de. Et donc, et d'autant plus quand on est une femme. Donc, c'est une réalité aussi que On n'a pas un système social qui est vraiment extrêmement soutenant. On n'a pas un système social qui permet que les mères, par exemple, prennent en charge leur santé mentale de manière efficace. On n'a pas beaucoup un système social, sauf si on rentre vraiment dans les cases du salariat, etc., qui nous permet de s'arrêter de travailler pour prendre soin de nos enfants et de nous-mêmes quand on en a besoin. Donc, en fait, ça, forcément, ça entache les capacités à aller bien et à être cette mère détendue, pleine de lâcher prise, qu'on rêverait toutes d'être. Et je crois que c'est ça qui est le plus compliqué. Je ne connais aucune mère qui dit « Ah, moi, c'est super, je suis psychorigide sur les horaires parce que j'essaie de faire que mon enfant aille bien. » Et donc, ça me rend heureuse. Non, c'est plutôt une souffrance, en fait, de se dire « En fait, c'est toujours moi qui dois rappeler à l'ordre, c'est toujours moi qui dois faire ceci. » Et en fait, si en plus l'enfant a un problème, que ce soit une alimentation pas assez diversifiée, un manque de sommeil, etc., on va de toute façon toujours taper sur la responsabilité de la mère. Et donc, en fait, ce fait que la mère ne soit pas fun, bah, ça va avec le fait que ce sont les mères qui sont tout le temps hyper responsables de tout ce qui se passe auprès de l'enfant, même quand elles ne sont pas responsables. Même quand ça peut être un père qui peut être responsable d'un trouble du sommeil ou d'une perturbation de l'ambiance, même quand les enfants ont eux-mêmes des troubles, on va quand même encore accuser la mère en priorité avant d'aller chercher d'autres pistes. Donc c'est très récurrent et très éreintant, et donc ça met une pression en fait non palpable, mais ça met une tension sur le fait que en tant que mère on doit faire ce qu'il faut, parce que sinon on va nous tomber sur le dos en fait.
Ouais, tout à fait. Et du coup la grande question, c'est est-ce que c'est encore aux mères de devoir trouver des solutions pour être plus fun de porter cette charge encore, d'essayer de trouver encore des choses, de chercher quelle énergie.
Ouais, et c'est ça en fait le problème principal, et c'est ce qui est révélé aussi dans les déséquilibres de couple. C'est en fait, c'est beaucoup les femmes qui sont en charge de comment mobiliser l'énergie pour trouver l'énergie, trouver les trucs. Alors généralement, ça se passe. Tant que la santé mentale est suffisamment bonne, les femmes déploient l'énergie nécessaire pour finalement réussir à mobiliser leur conjoint. Globalement, vraiment, ça arrive encore pas mal.
Donc les partenaires sont à ce moment-là capables du coup d'entendre et de pouvoir aussi...
Alors on va dire que c'est ça, parce que en fait, tant que la santé mentale est suffisamment stable, quand je dis stable avec des guillemets chez une mère, hein, c'est parce que vraiment on sait que quand on a un enfant, ça peut être vraiment vite l'eau chaude, l'eau froide à longueur de journée, donc ça peut être compliqué, mais en gros, c'est de pouvoir en tout cas réussir à mobiliser avec les ressources qui nous restent le conjoint. S'il y a un échec, par contre, les ressources, elles peuvent s'effondrer d'un coup. Et si ça ne fonctionne pas, en effet, il y a une forme de lassitude et d'épuisement qui, en fait, revient à, en fait, non. En tous les cas, on est responsable de ce qu'on peut faire, nous, factuellement, parfois. Mais en fait, il y a des fois où on n'y arrive pas. Et là, on n'est pas responsable non plus de ne pas y arriver. Dire, globalement, quelqu'un qui fait une grosse dépression postpartum ou quelqu'un qui fait une dépression tout court ou de l'épuisement parental, on ne peut pas dire que la personne est responsable.
Bien sûr.
Dire, globalement, c'est des conditions, il y a plein de facteurs qui amènent ça. On ne va pas dire à quelqu'un, ah, mais c'est ta faute, t'es responsable, il ne fallait pas être perfectionniste. Oui, bon, bah, en fait...
Et puis, il y a le côté où on dit aux mères elles ont qu'à lâcher prise, parce que c'est pas grave si l'enfant, sauf qu'au bout d'un moment, ben, si on lâche prise sur certaines choses, on sait pas non plus comment maintenir
souvent,
à fond certaines choses.
Et puis cette capacité à être plus détendue et plus flexible psychiquement, ça peut être enraciné dans plein de choses en fait. C'est que cette capacité-là, elle peut se travailler en thérapie par exemple, on peut beaucoup la travailler, cette flexibilité. Souvent en fait, il y a cette grande peur qu'il y a un effondrement. Donc ça veut dire que si jamais on lâche prise sur quelque chose, même si j'aime pas trop le terme lâcher prise, mais si on se détend sur certains principes qu'on a, on peut avoir peur que tout le reste s'effondre. Ou que ce soit que ça devienne hyper compliqué, ou alors que on n'ait plus assez de temps pour soi, ou qu'il y ait trop d'excitation, ou qu'il y ait trop... Et donc en fait, c'est une espèce d'autopréservation. Cette rigidité, elle vient comme autopréservation, elle a un sens, c'est une protection en fait aussi de soi-même, et ça on a tendance à l'oublier. On le voit comme ouais mais je suis pas assez fun machin, mais en fait si on fonctionne comme ça, c'est que notre système a mis en place ce fonctionnement-là pour se préserver en fait.
D'accord.
Donc en fait ça vient répondre à un besoin. L'idée c'est d'aller peut-être décrypter quels sont les besoins qui sont très agités ou les choses qui bloquent un peu ce côté rigide. On peut aller chercher des croyances, on peut aller déraciner les croyances limitantes, on peut aller faire des analyses fonctionnelles de ce qui se passe autour des comportements qu'on peut avoir. Et essayer de comprendre et voir si on peut mettre en place des alternatives, si vraiment la rigidité fait souffrir la personne. Globalement, par exemple, quelque chose que je vois assez régulièrement, c'est des mamans qui vont être très rigides sur les horaires des siestes, par exemple, alors qu'on sait que bah, comme les enfants évoluent beaucoup, bah, parfois les siestes, elles se décalent, elles changent, etc., parce que bah, les enfants grandissent, et qu'il y a des fois où ça peut être compliqué, en fait, de s'ajuster par rapport à ça. Mais en fait, tout ça, ou par rapport aux horaires des repas, etc., il y a un peu ce truc que, mon Dieu, mais si mon enfant mange plus tard ou se couche plus tard, il va y avoir une nuit plus agitée, et parfois ça peut être le cas, ou il peut y avoir un lendemain plus fatigué, et franchement, gérer un enfant fatigué, tout le monde sait qu'il y a eu un enfant, sait que gérer un enfant fatigué, c'est pas rigolo, en fait. Mm-hmm. Et donc, en fait, c'est un peu de l'anticipation, il y a beaucoup d'angoisse d'anticipation, de qu'est-ce que le fait de relâcher certains principes va amener comme conséquence. Donc, en fait, l'idée, c'est d'essayer de moduler, OK, est-ce que les conséquences, c'est des conséquences réelles? Est-ce que c'est des conséquences présumées? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que, finalement, ça vaut pas le coup, parfois, de relâcher sur certaines choses, etc. Mais dans les faits, il faut se rappeler que c'est un mécanisme de protection qui est plutôt logique et que si on est les seuls garants du cadre à la maison, bah, le problème qu'il y a, c'est qu'on a besoin, quoi. Et l'idée, c'est juste dans une logique où on est dans une manière de garantir le cadre qui soit pas qui crée pas de la souffrance chez nous.
Et là, tu parles du cadre de la maison, mais moi, en tant que maman solo, je le vivais aussi avec les grands-parents, parce que les grands-parents, moi, mes parents, ils avaient juste envie d'être des grands-parents fun, tu vois, ils avaient plus la même responsabilité qu'ils pouvaient l'avoir avec nous. Et moi, non seulement j'étais la seule qui mettait un cadre, parce que le papa était loin, il ne les voyait jamais, et il m'avait déjà prévenu dès le départ que lui, ça serait plus de son ressort. Et en plus de ça, mes parents avaient aussi envie d'avoir ce rôle cool qu'ils n'avaient pas eu avec nous en tant qu'enfant. Et du coup, moi, des fois, je trouvais ça tellement injuste. C'était pas évident, ouais. Parce que mine de rien, on est quand même aussi dans des familles où seulement les parents s'occupent des enfants et puis les autres, ben, ils n'ont pas vraiment ce rôle un petit peu moins cool, moins agréable avec tous les à côté, ouais.
Bah, et c'est là tu pointes un gros problème de l'organisation de la société occidentale. Je sais pas, toi t'as l'air d'être dans un pays où ça fonctionne peut-être un peu différemment. Je sais pas si tu connais un peu les coutumes locales, mais en tout cas, à l'occidental, clairement, on est sur cette typologie-là de relations familiales où, en effet, tout repose maintenant sur les parents. Et les grands-parents de notre époque, désolé, mais ce sont des baby-boomers.
Tout à fait.
Voilà, qui ont grandi dans une société ultra capitaliste et qui ont participé activement au fait que cette société soit très prolifique. Et donc, ils ont beaucoup travaillé, ils ont été très mauvaise santé mentale à certains moments, parce qu'en fait, à l'époque, en plus, c'était pas du tout reconnu. Et aujourd'hui, il y a une espèce de truc genre, ah, c'est bon, on a bien donné, ça va. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup dans notre génération, c'est qu'en fait, il y a peu de grands-parents qui sont aussi disponibles que nos grands-parents l'ont été.
Tout à fait. Ouais.
Et en fait, forcément, nous, on est vraiment une génération pivot qui est très compliquée à vivre au quotidien. Et ça, en fait, je pense qu'on n'en a pas assez conscience. C'est qu'on est vraiment une génération pivot dans les sociétés, notamment la société française, hein, parce que quand on pense aux pays du Nord, il y a un peu de décalage, où on tente de faire tout ce qu'on peut pour élever nos enfants plus en lien avec des valeurs profondes, de bienveillance, d'accompagnement, d'empathie. Alors, le maternage proximal, c'est quand même assez bien popularisé à certains égards. Tu vois, le fait de porter un enfant, c'est plus considéré comme tellement bizarre. Tu vois, alors à l'été jusqu'à 6 mois, ok, au-delà c'est toujours un peu bizarre, mais bon, globalement, tu vois, ça, il y a quand même des trucs qui arrivent dans la culture populaire qui
ça
est
évolue, ouais.
Du coup assez banalisé de progressivement, mais par contre, c'est vrai que ça, il y a quand même ce truc de bah, c'est les parents qui gèrent tout, quoi. Il n'y a pas vraiment de soutien, il n'y a pas de typiquement de soutien de la mère qui vient d'accoucher. Genre, je sais pas, moi, j'ai vécu en tant que maman solo, il n'y a pas un système qui s'est mis en place autour de moi pour que je sois vraiment très entourée dans les premiers mois de ma fille. Tu vois, et globalement c'est pareil pour toutes les mères. Je veux dire, combien sont pas des mères qui veulent avoir de la visite, mais où les gens viennent en visite et ne prennent aucune charge, laissent de la vaisselle sale. Et je sais pas si vous avez des souvenirs de ce que c'est qu'un périnée un peu fatigué le lendemain d'un accouchement pour aller faire la vaisselle. Franchement, c'est pas rigolo, quoi.
Non, mais complètement. C'est pas très... On est bien d'accord. L'entourage est quand même assez peu soutenant. Et j'ai l'impression que malheureusement même les mères qui ont vécu ça il y a 20 ans, 30 ans, 60 ans, et ben elles ont réussi, même si c'était dur, en serrant des dents, et du coup on devrait faire pareil.
Ouais. Alors c'est ça, mais en fait il y a cette c'est ce qu'on dit toujours, en fait quand on a vécu de la violence, on la banalise, parce que sinon en fait c'est très destructeur. Se rendre compte que ce qu'on a vécu c'est de la violence, c'est très destructeur, et ça pousse à l'envie d'accuser les autres. D'accuser le fait de, bah oui, en fait, moi non plus, on m'a pas entourée et c'était pas juste. Et c'est de dire, bah ouais, moi je trouvais que par exemple, nos mères, elles pourraient dire, bah j'ai trouvé que mes parents, moi, ils étaient un peu dysfonctionnels par rapport à ça. Quand les enfants étaient plus grands, ils ont bien voulu les prendre en charge de temps en temps, mais en fait, on n'a pas soutenu, j'ai eu aucune attention émotionnelle. On me voyait pleurer, mais on me disait, allez, une tête dans le dos et ça va aller, quoi, c'est bon, t'as voulu un enfant, alors t'as voulu un vélo pédale. Donc, en fait, il y a un peu ce truc-là où reconnaître que la société a été violente avec elle, a posteriori, 30 ans plus tard, mettons, ou de le fait que ça aiguise beaucoup de sentiments désagréables, il n'y a plus grand-chose à faire. Elles ont l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, en fait, s'il n'y a rien à faire, autant pas en parler. C'est vraiment cette génération-là. S'il n'y a rien à faire, autant pas en parler. Ouais. Nous, on est dans une génération où, même s'il n'y a rien de factuel à faire, reconnaître la souffrance, c'est déjà légitimer ce qu'on ressent.
Complètement.
Et donc, on est forcément dans un rapport à notre santé mentale et au sentiment qu'il y a derrière, très différent.
Ben super.
Donc forcément, on ne se comprend pas forcément sur les besoins et les attentes au niveau émotionnel, c'est-à-dire un des gros problèmes qu'on rencontre dans les liens, et donc aussi dans ce cadre par rapport aux enfants, où quand on dit, écoute, voilà, un coup typique, hein, cette semaine, on a beaucoup fait, c'était des vacances, on a beaucoup fait d'extra, etc., j'aimerais que, je sais pas, ouais, le temps qu'il soit chez toi, la nourriture soit assez équilibrée, etc. Et puis on apprend après que ça a été le Bronx aussi. Alors on peut se dire, ouais, mais c'est pas juste de dire aux grands-parents de devoir tout calculer, etc. Mais en fait, c'est un peu une question d'équilibre. Et en effet, donc d'avoir l'impression de se dire, mais en fait, tout repose exclusivement sur moi en tant que mère. Parce que si on laisse faire les grands-parents, les pères, les oncles, les tantes, ben forcément, tout le monde va la faciliter. Ça rend l'enfant souvent hyper content, mais ça remplit pas forcément certains besoins fondamentaux. Et c'est là où c'est un peu injuste, quoi. C'est un peu ce côté, je prends le bébé tant qu'il gazouille et qu'il est mignon, dès qu'il pleure, je te le rends et je te fais oula.
Tiens, il veut sa mère.
D'ailleurs, je te laisse. Je vois que peut-être t'es fatiguée. Allez,
c'est ça.
Bonne journée.
Moi, j'avais un truc où tu sais, j'avais l'impression qu'en gros, je pouvais m'autoriser 2-3 repas dans la semaine qui étaient vraiment pas super équilibrés parce que le reste l'était. Et quand en fait, ils avaient été chez les grands-parents, qu'ils avaient mangé fast-food ou compagnie, je me disais, bon, bah en fait, il prend après. C'est un peu mon crédit à moi qui est passé, quoi. Et tant pis, du coup, je vais être obligée de. Ouais, c'est un peu délicat.
Oui.
Mais le mot de violence dont tu parles, là, je pense qu'il fait vraiment sens. Est-ce que si jamais tu as une dernière petite phrase, un petit truc qui pourrait faire du bien, que tu sais que ça peut apaiser un petit peu, faire un peu de baume au cœur à toutes ces mamans qui n'ont pas du tout l'impression d'être fun et qui n'ont pas envie de ça, quoi.
Il faut se rappeler que ce que les enfants perçoivent comme fun n'est pas forcément ce que nous on perçoit comme fun, et que connecter avec un enfant, prendre le temps d'accueillir ses émotions, prendre le temps de faire une activité qui est très sobre mais qui est pleinement présente avec eux, en fait déjà ça, en fait ça vaut tout le fun du monde. Et en fait, on peut pas avoir les mêmes relations les uns les autres, on peut pas avoir les mêmes rôles parce que on n'est pas dans la société à la même place. C'est comme ça, les femmes vivent beaucoup de violences sociétales. Mais en fait, on a aussi aujourd'hui cette possibilité d'être beaucoup plus en connexion avec nos enfants. Et ça donnera beaucoup plus de relations et de création que juste un père qui va aller jouer au foot jusqu'à la tombée du jour. Ça fait des bons souvenirs, mais en fait, en termes de construction de l'identité, bah, c'est très intéressant aussi d'être cette personne, peut-être pas si flamboyante, mais présente et connectée.
Et les enfants, donc, le fait avec les années qui passent, ils le savent aussi, tout ça, ça compte. Ouais.
Ouais.
Carrément. Merci beaucoup.
Avec plaisir.